Dieu a un dessein éternel. Dieu a un dessein éternel. Il a mis à exécution Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, Dieu a un dessein éternel. Ce dessein ne peut pas être changé au chemin de la prison. Le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, donc de sa propre volonté, et d'après son propre conseil de sa volonté, pas le conseil d'un homme, pas le conseil d'un prophète, mais d'après le conseil de sa volonté, lui il exécute toutes choses suivant ce plan. Ceci est vraiment capital. Et bien sûr, un passage que nous connaissons souvent, parlant de son conseil dans les individus, là il nous dit, dernière partie, admirable est son. Le conseil de Dieu est admirable, il ajoute, est grande et sa sagesse. Ici, il est très important que nous saisissions ce point. Il est dit dans Ésaïe 40. Verset 13. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a pris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Peut-être c'est parce que nous, à un moment, nous croyons que nous pouvons montrer à Dieu ce qu'il a fait, comment Dieu le fait souvent, alors que dans Actes au chapitre 4, il nous est montré quelque chose de très 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 important. Après avoir été reçu, aller vers le dirigeant et raconter tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, tes serviteurs, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont levés contre le Seigneur, notre Seigneur. En effet, ouvre ton saint serviteur Jésus que tu as là. Hérode, Pilate se sont levés dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Les hommes qui étaient des serviteurs de Dieu ont prié conformément à la parole prophétique avant qu'il n'ait eu l'entendement correct de ces choses. Dans Luc ou dans Marc, il est dit, Marc chapitre. Thank you. Il est montré que Jésus étant ressuscité apparut aux profanes. Et verset 10, Marie de Magdala alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. En ce temps-là, ils s'affligeaient, ils pleuraient. La Bible dit dans le livre de Jean qu'ils s'étaient cachés par la crainte des Juifs. Jean, chapitre 20. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte des hommes, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. On était dans Marc 16, 19, on allait dans Jean 20, 19, allons dans Luc. Ces disciples qui n'avaient pas compris la parole prophétique, le plan de Dieu, étaient incapables de discerner clairement ce qui se passait sous leurs yeux. Jean-Luc 24. Jésus a rencontré des disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Verset 17. Il leur dit : de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent et leur disent : l'un de nos maîtres passe, lui répondit : Dieu, le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci à leur côté. Il lui répondit : ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en lui, ayant parole devant lui, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier. Verset 2. Nous espérons, pendant tout le passage de Jésus-Christ sur terre, ses disciples qui avaient marché avec lui disent : nous espérions que ce serait lui qui les livrerait. Mais, contrairement à leur espérance, avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étudiées, s'étant rendues de grand matin au Seigneur, n'ayant pas trouvé son corps, se sont venues dire que les anges sont apparus. Ils ont annoncé que quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, alors Jésus a dit : ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concerne. Jésus leur reproche leur incrédulité pour n'avoir pas cru les paroles des prophètes. Mais n'était-il pas écrit qu'il fallait que le Christ souffre ces choses ? Dans Marc 16, où nous avions lu, l'Écriture dit, au verset 14, « Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Avant que Jésus ne ressuscite d'entre les morts, ses disciples qui avaient reçu l'appel divin étaient coupables d'incrédulité, c'est-à-dire tous les événements qu'ils avaient vus de leur vivant sous leurs yeux, les événements dont ils étaient témoins. Ils avaient été incapables de placer ça conformément aux Saintes Écritures. Par conséquent, toute leur espérance était une espérance morte, une espérance trompeuse. Ils croyaient qu'il était venu pour délivrer Israël, alors qu'il était venu pour mourir. Et Jésus leur reproche leur incrédulité. Mais regardez qu'à sa résurrection, la Bible dit dans Actes au chapitre 1er, verset 3, commençant par Jésus Christ. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, celui de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui l'ont choisi. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après sa résurrection, lorsqu'il commença à leur parler des choses qui concernaient le royaume des cieux, qu'il prenait dans les prophètes, dans les psaumes et dans Moïse, ces hommes parvinrent à la compréhension claire des choses de Dieu. Et alors dans Acte 4, maintenant ils font une prière conforme à la volonté de Dieu. La prière maintenant qu'ils font dans au chapitre 4, il dit, c'est toi qui l'as parlé par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père David. Tu avais dit ceci, 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 cela. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations, avec des peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils ont maintenant reconnu que ce qui se passait devant eux avait déjà été arrêté d'avance. Alors il prit conformément aux prophéties et dit, et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ainsi, le sujet de la grâce ne peut être compris de la manière correcte que s'il est replacé conformément aux Saintes Écritures dans le plan de Dieu tel qu'il a été déjà dessiné dans les prophètes, la loi et dans les psaumes. S'il est pris séparément, on prend que quelques versets dans le Nouveau Testament, sans pouvoir replacer ça dans le cadre du plan du salut de Dieu avec les hommes, on perd de vue tout et on fait de cette grâce autre chose. On prêche alors autre chose, croyant prêcher le salut de Dieu. Ceci est très important parce que quand Dieu a envoyé Abraham dans Messieurs et cela, il montre, il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Alors il explique. Mais c'est le septième ange qui a ce type de message. Par exemple, 186, qui était dit, remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le septième ange rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens tout au long de ces organisations et dénominations. Le septième ange les rassemble et termine le mystère tout entier. C'est ce que la Bible dit. Il termine le mystère du livre écrit. Oui, l'esprit, c'est en paragraphe 180. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture. Une vérité qui était caché précédemment et qui est maintenant divinement révélé, mais où il reste malgré tout un élément surnaturel en dépit de la révélation. Les mystères importants, ainsi que tous les grands mystères, sont les suivants. Le premier mystère est le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous parlons maintenant dans Matthieu 13. Le deuxième mystère est celui de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Contexte Romains 11. Le troisième mystère est celui de la translation des saints vivant au temps de la fin dans cet âge. 1 Corinthiens 15. Le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des nations, des êtres. Le cinquième mystère est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Le 6, Éphésiens 5. Le sixième mystère est celui du Christ vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Galates 2. Le septième mystère est celui de Dieu en Christ en tant que plénitude de la divinité incarnée. Incarnée en celui par lequel toute la sagesse divine et toute piété sont restituées à l'homme. Le neuvième mystère est celui de l'iniquité, décrit dans 2 Thessaloniciens. Le dixième mystère est celui des sept étoiles d'Apocalypse 1:20. Le onzième mystère est celui de Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17. Ce sont ici quelques-uns des mystères que cet ange doit dévoiler. Il doit dévoiler tous les mystères de Dieu. Et quant aux autres, je les cite avec respect, ne me référant pas à moi-même, mais à l'ange de Dieu. Ce sont la semence du serpent. Mystère qui avait été caché pendant toutes ces années. La question de la grâce mise au point. Non pas la disgrâce, mais la grâce réelle. La vraie grâce. Les autres mystères, on peut les lire, mais je voulais arriver là. Il montre que c'est un mystère. La grâce réelle, c'est un mystère. Mais qu'est-ce qu'un mystère? C'est un passage de l'Écriture. Une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée. Mais où il reste malgré tout un élément surnaturel en dépit de la révélation. Et comme le mystère de cet homme était de nous ramener à l'enseignement de Paul, mais remarquez que Paul et les autres apôtres et Jésus-Christ, de leur vivant, n'avaient que l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Genèse à Malachie. Toute la grâce dont il est question dans les évangiles, dans les épîtres, ces hommes avaient simplement l'Ancien Testament et ils ont pu établir par l'Ancien Testament qu'aujourd'hui nous sommes. Cela revient à dire que si nous lisons Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Josué, tous ces saints livres, nous devons être à même de percevoir clairement le temps dans lequel nous vivons et réaliser que le plan de Dieu, il y avait un temps dans lequel il s'était fixé. Et nous avons vu mettre toutes choses à exécution par Jésus-Christ. Nous prenons dans l'Ancien Testament. Dieu créa le premier homme. Adam. Genèse 1, verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit. Remplissez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Le premier homme qui avait été créé, Adam, Dieu lui donne une alliance conditionnelle. C'est dans Genèse, au chapitre 2. Là, il est dit au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu lui donne une condition. La condition pour Adam, pour qu'il puisse vivre éternellement, était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien.
Pour que ceux qui sont appelés ne sont pas appelés de voir la grâce et non la disgrâce.
Car le jour où il en mangera, il mourra certainement. Mais remarquez que l'Écriture n'a jamais appelé Jésus le Fils d'Adam. Parce que Jésus n'avait pas reçu, n'était pas venu pour nous placer dans une alliance conditionnelle comme Adam. Mais l'Écriture parlant de Jésus dit dans Romains 5, prenons d'abord 1 Corinthiens 4, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devint une âme différente. Mais le dernier Adam, pas le second Adam, comme s'il peut y avoir un troisième Adam, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Au contraire, on oppose Christ à Adam. Pour montrer, Romains chapitre 5, verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, Adam, est la figure de celui qui devait venir. » Ah, on montre alors qu'Adam n'était qu'une figure, mais du véritable Adam, le dernier Adam qui devait venir. Celui en qui Dieu devait commencer une nouvelle création. La race d'Adam est une race déchue. Mais la race que Christ a donnée, Pierre nous dit dans 1 Pierre, vous voyez, ce sont des sujets qui se recoupent avec tous les sujets de l'Écriture, tous les grands sujets. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Mais la première race, c'est une race déchue. Le second Adam, le dernier Adam, Christ, est venu pour relever ceux qui étaient tombés par la chute du premier Adam. Mais, déjà dans ce premier Adam, lorsqu'il tombait, l'Écriture dit, verset 7, prenons Genèse 3, 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. » Verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Regardez que même sous cette alliance conditionnelle, la grâce de Dieu se manifeste. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Où es-tu? L'homme répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu lui demande, qui t'a appris que tu es nu? Comment cette connaissance t'est-elle donnée? Est-ce que Dieu a mangé de l'arbre quand je t'avais défendu de manger? Mais l'homme commence la conversation. La femme peut venir auprès de moi. Maintenant, j'en ai mangé. Regardez les paroles de Dieu. La femme dit, c'est pas ma sécurité. L'Éternel, c'est pas ma non. Puisque tu as fait ça. Je ne sais pas, il pense pas de question, il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Avant de commencer à parler à la femme des douleurs et à l'homme de douleur, il dit d'abord, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa semence et ta semence. Il commence par leur donner une promesse de grâce. Déjà dans le premier temps, dans la première alliance conditionnelle qu'il donne à l'homme, il montre déjà sa grâce qui a l'homme. Dieu avait déjà tout dit. Lui, je mettrai une limite entre toi et la femme. Oui, toi, entre ta semence et sa semence. Mais la femme n'a pas de semence. Hébreu. ceux des fils de Lévi qui exercent le sacrifice sont d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le père, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, pas des reins de Sarah. Et lui qui ne dirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, quand on dit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les mains de son père lorsque Melchisédek alla au temps d'Abraham. Mais Lévi était fils de Jacob, Jacob était fils d'Isaac, Isaac était fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac et Sarah enfanta Isaac. Isaac engendra Jacob et Jacob enfanta et Rebecca enfanta Jacob. Et Jacob engendra Lévi et Léa enfanta Lévi. Nous voyons l'intervention de trois femmes, Léa, Rebecca, Sarah. Mais l'Écriture dit, Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est le père qui a la semence. Dans Ésaïe 45, il est dit, un passage que nous connaissons bien, c'est au verset 10, verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Verset 10. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Pourquoi as-tu donné la semence? Et à ma mère et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi, à cette femme qui n'a pas de semence, mais qui reçoit la semence du mari, Dieu lui dit, la semence de la femme écrasera la tête du sein. Mais comment une femme traiter la parole, puisqu'elle n'en a pas. Ici, dans ce verset 15, il nous est montré que la parole devait devenir chair. Dieu devait devenir homme. C'est pour ça que Jésus, il n'est pas dit de lui la semence de l'homme, mais on dit la semence de la femme. Il n'a jamais été appelé le fils d'Adam. Mais au contraire, on dit de lui qu'il est la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'en Abraham, Genèse, chapitre 12, jusque plus loin. Là, Dieu fait avec Abraham une alliance inconditionnelle, pas de condition. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je, moi Yahvé, ferai de toi une grande nation. Je, moi Yahvé, te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Amen.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi.
Amen.
Sans condition. Ici, nulle part il est dit, Abraham, si tu fais, je ferai ceci. Si tu fais, je. Non. Il est simplement dit, je. Paul, il était prophète. Dans les Galates, les Galates qui n'étaient pas des Juifs, qui étaient des païens. Or, les païens, l'Écriture dit d'eux, prenons d'abord Galates, prenons Éphésiens, regardez ce que l'Écriture dit des païens. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est comme ça que nous étions, les païens. Maintenant, à ces Galates qui étaient païens, quand les Juifs voulaient les obliger à se circoncire, Paul leur dit dans Galates 6. Comme Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, pas par la loi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il dit la bonne nouvelle.
Amen.
Quelle bonne nouvelle? Toutes les nations seront bénies en toi. Amen.
Amen.
Ainsi, ceux qui croient sont bénis. Avec qui? Avec Abraham, le croyant, et non Abraham, le juif, l'hébreu, le circoncis. Non, mais avec Abraham, le croyant. Car les promesses avaient été données à Abraham longtemps, bien avant la loi. Alors, remontons plus loin. Verset 14, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham, Abraham, je te bénirai. Je. Tous ces jeux-là. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 15. Ouais. Je parle à la manière des sens. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Mais Dieu a déclaré sous serment à Abraham. Paul prend dans les Hébreux et il dit ceci. Verset 13. Hébreux 6, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends, qui arrête toute discussion. Il n'y a plus rien à dire. C'est pourquoi, verset 17, Dieu voulant montrer avec beaucoup plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Ça veut dire que sa résolution ne peut pas changer. Il voulait montrer aux héritiers de la promesse que sa promesse ne pouvait pas changer. C'est pourquoi il intervint par un serment. Et il dit, je. Nous avons bien vu. Afin que par deux choses immuables, donc ils ne peuvent pas changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses? La promesse et le serment.
Amen.
Nous trouvions un puissant encouragement. Il voulait montrer à qui? Aux héritiers de la promesse. Revenons dans Galates. Maintenant, vers Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. La promesse a été faite à la postérité d'Abraham. une seule, Christ. Il continue, verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament, donc la promesse que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulé. Parce qu'il a confirmé par la promesse et le serment. Elle ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi la version d'Arby. Ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, avez-vous entendu? Il ne viendrait plus de la promesse. L'héritage ne peut pas venir de deux choses à la fois. Ou c'est la loi, ou c'est la promesse. Mais la promesse était venue 430 ans plus tôt. Et Dieu l'avait certifié par un serment déclarant, jurant par lui-même, certainement. Donc la promesse ne veut pas être rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard.
La loi qui est survenue 430 ans après n'a nul point une alliance antérieurement confirmée de manière à rendre la promesse sans effet.
Ah, c'est clair. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse.
Car si l'héritage est sur le principe de la loi, il n'est plus sur le principe de promesse.
C'est clair. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.
Amen.
Pas par la loi, mais par la promesse. Or, les héritiers le sont, non par la loi, mais par la promesse. Il a juré, afin de montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution.
Amen.
C'est clair. C'est vraiment très clair. Dans Romains 4, il ajoute, disant ceci, Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est sans effet. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce.
Amen.
Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, ah, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. La chose est très claire. Abraham avait avec Dieu une alliance de grâce, une alliance inconditionnelle. C'est pour ça que Jésus est appelé la postérité d'Abraham. Car la promesse était faite à Abraham et à sa postérité comme étant une seule, c'est-à-dire Christ, et non plusieurs. Donc nous voyons que quand il y avait l'alliance conditionnelle, Dieu ne s'adresse pas à Adam, il dit la semence de la femme. Puis quand il y a l'alliance inconditionnelle, il dit la postérité d'Abraham. Ceci est très important. Ceci est capital. Revenons même à Adam lui-même. Lorsqu'il a chuté, il s'est fait ses feuilles de figuier, Dieu est venu, lui a ôté ses feuilles de figuier, et Dieu a offert le sacrifice. Dieu a lui-même versé le sang, et il a revêtu Abraham de la peau du sacrifice. Adam de la peau du sacrifice. Donc Dieu devait montrer par cela que c'est lui-même qui devait intervenir pour pouvoir se choisir un sacrifice qui lui est agréable, que lui-même s'offre ce sacrifice et que lui-même revêtisse l'homme du vêtement de ce sacrifice.
Amen. Amen.
Donc déjà dans Adam, il était montré clairement, lui qui était sous une alliance conditionnelle, que Dieu voulait faire avec l'homme une alliance inconditionnelle. Maintenant, revenons dans Abraham. Nous voyons que Abraham est appelé le père des nations et lui, la foi lui est donnée. Alors Romains 4 nous dit quelque chose de très 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 important. Dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Parce que devant Dieu, ça ne marche pas. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Revenons dans Josué. Ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu, c'est Dieu qui a cherché Abraham. Josué chapitre 4. Josué dit à tout le monde. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères. Le Dieu d'Israël. Vos pères, Terak, père d'Abraham, et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Voilà les dieux d'Israël. Bien qu'Abraham était là, je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je prie Abraham, votre père. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité. Et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Esaü. Et je donnai en propriété à Esaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a pris Abraham. Romains 4. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Si tu fais une œuvre, le salut te sera imputé, pas comme une grâce, mais parce que tu le mérites, puisque tu as travaillé. Or, il est dit, mais si Abraham a droit de se glorifier, mais ce n'est pas devant Dieu. Parce qu'Ésaïe 64, verset 5, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Verset 5, et à celui qui ne fait point d'œil. Parce que la chose est claire. À celui qui ne fait aucune œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice.
Amen.
Donc, sans œuvre, mais par la seule foi en celui qui justifie l'impie, ta foi t'est imputée à justice. De même, sous la loi, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Sous la loi, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, déclarant: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Paul pose la question: ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Amen. Afin, c'était dans un but,
oui,
d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Amen.
Amen.
Pour que la justice leur soit aussi imputée. Et en même temps, le père des circoncis, mais qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis.
Amen.
Il a reçu cette justice quand il était incirconcis, afin qu'il soit clair qu'il est le père de tous, des incirconcis qui croient et des circoncis qui croient.
Amen.
Afin qu'il soit évident aux héritiers de la promesse.
Amen.
Mais les héritiers le sont par la foi.
Amen.
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 Que la promesse est pour eux. C'est pour ça qu'il a commencé par jurer.
Amen.
Formidable. Il a d'abord commencé par jurer. Avant même de faire tout ça. Certainement, je te bénirai. Donc, dans Abraham, il nous est montré clairement que l'alliance qu'il avait, c'était l'alliance de la grâce. Alors, Jésus est appelé le fils, la postérité d'Abraham. Parce que lui, comme Abraham, il avait l'alliance inconditionnelle. Par cela, Dieu montrait l'immuabilité de sa résolution. C'était déjà déclaré, arrêté, terminé. Et cela, indépendamment des œuvres. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que l'Écriture, dans les Romains, dit au chapitre 9, verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, non. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Avant même qu'Isaac soit né, Dieu l'avait appelé par une vocation divine. Il montre à nouveau sa grâce. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse.
Il faut toujours cette promesse.
Qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est aussi simple que ça. Sarah n'a pas dit que mon fils soit l'héritier. Abraham n'a pas dit ce sera Isaac l'héritier. Isaac n'a pas dit je dois être l'héritier. Mais avant même qu'Isaac naisse, Dieu l'avait établi héritier. Ils étaient tous nés du même père. Mais l'un était né sur la base de la parole de la promesse, tandis que l'autre était né sur la base de la chair. Et de plus, verset 10, il en fut ainsi de Rebecca.
qui, la même femme, conçut seulement du même homme, Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et qui n'avaient fait ni bien ni mal. Ah! Mais maintenant, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste,
amen,
l'immuabilité de ses résolutions, sans dépendre des heures,
amen. Amen.
Mais par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ayant été prédestiné, d'après le plan de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Ah, voilà. Sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Voilà. Donc regardez que dans tous ces hommes de l'Ancien Testament, toute la grâce était typifiée là, manifestée. Mais il fallait que celui de qui toutes ces choses étaient dites vienne.
Amen.
Jésus-Christ. C'est pour ça que Galates 4 dit, lorsque les temps furent accomplis, Galates 4, Jésus-Christ, lisons Galates. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi ? Afin qu'il puisse exécuter le dessein de Dieu. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous recevions l'adoption. Amen.
Amen. Amen.
Parce que le but de Dieu était de nous donner cette adoption par Jésus-Christ. Oh. Mais maintenant nous voyons qu'Abraham avait la loi, la foi, mais la grâce, la loi vint après. Alors Paul pose une question. Galates 3, 19. Mais pourquoi donc la loi est-elle venue? Galates 3, 19. Il répond. Elle a été donnée ensuite, afin que le péché apparaisse manifestement comme une transgression, jusqu'à ce que vienne la descendance, la postérité, à qui la promesse avait été faite. Donc la loi avait été donnée pendant un temps, pour que le péché soit manifesté comme une transgression, jusqu'à ce que celui à qui la promesse avait été faite vienne, c'est-à-dire Christ. Alors il continue à dire, la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, Moïse. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est seul. Alors il pose la question. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Pourquoi? Pourquoi la loi n'est-elle pas contre les promesses? Parce que s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, alors la justice viendrait réellement de la loi. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, mais la justice viendrait réellement de la loi. Mais, ce petit moment, c'est que la suite n'est pas comme cela.
Oui. La loi est-elle donc contre les promesses de
un
Dieu?
Un peu plus fort.
La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car s'il avait été donné une loi qui eut le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi.
Voilà. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ.
Amen.
À qui? À ceux qui croient. Amen.
Amen.
Alors ils seront bénis avec Abraham le croyant.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alors, avant que la foi vienne. Parce que tout ça, c'était des types. avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la garde, enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un moniteur, pour nous conduire où ?
À Christ.
Amen. Afin que nous soyons justifiés par la foi que Christ donne.
Amen.
Donc, nous qui croyons réellement à la loi, oui, nous avons été conduits à Christ.
Amen.
Mais ceux qui n'ont pas cru à la loi et qui l'ont interprétée, ils n'ont pas été à lui. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. Mais vous faites bien parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi car elle a rendu témoignage de moi. Amen.
Amen.
Ceux qui n'avaient pas cru.
Alors Jésus leur dit,
qui vous condamnera ? Ce n'est pas moi. C'est Moïse en qui vous dites croire qui vous condamnera. Car Moïse a écrit de moi.
Amen.
Donc, si vous avez bien compris la loi, mais laissez-la, allez à Christ. Mais si vous n'avez pas bien compris la loi, vous la garderez. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui était prophète, qui avait bien compris son ministère, il a dit, mais voici l'agneau de Dieu. Pourquoi vous voulez vous attacher à moi ? Non, 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 j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Voici l'agneau de Dieu.
Amen.
Donc, le but de la loi, c'était de nous montrer Christ.
Amen.
Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Est-ce que c'est clair ? Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment ? Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, parce que la loi était pour les juifs, ni grec, parce qu'ils étaient étrangers à la loi. Ils n'avaient pas le droit de citer. Il n'y a plus ni esclave, car il nous a rendus libres.
Amen.
Ni libres, parce que nous sommes esclaves en Christ.
Amen.
Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Amen.
Alors, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham.
Amen.
Héritier selon la promesse.
Amen.
Les choses sont claires. Donc, dans Adam, dans Abraham, dans tous ces hommes, il avait déjà tout montré. Israël est arrivé en Égypte. Et là, ils se sont retrouvés esclaves. Quand Moïse est venu pour les libérer, il ne leur a pas dit ça. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu pour les faire sortir d'Égypte et les conduire dans le pays que j'avais. Moïse était venu, il avait été envoyé par grâce. Mais arrivés dans le désert, ils ont rejeté cette grâce, ils ont voulu la loi. Et la loi leur a été donnée dans le désert. C'est alors que le sacerdoce lévitique a été établi. Le sacerdoce d'Aaron. Abraham avait pour sacerdoce, pour souverain sacrificateur, Melchisédek.
Amen.
Mais quand Moïse est venu avec la loi, on a établi un nouveau sacerdoce, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron. Hébreux, chapitre 7. Vous voyez que nous voulons prendre la grâce dans le plan pour que quand on reviendra, toutes choses vont devenir claires. Hébreux, chapitre 7. Prenons d'abord toujours Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, dit considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, Jésus-Christ est souverain sacrificateur, mais de la foi que nous professons. Hébreux 5, verset 5. Et Christ, parce qu'au début, il est parlé du souverain sacrificateur. Verset 4, il est dit, du souverain sacrificateur, Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il l'attient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je te...